France Inter.
France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Gérard Depardieu, coupable, condamné pour agression sexuelle, mais aussi pour son attitude durant son procès. L'acteur fait appel, explication dans un instant. Et réaction à Cannes, où s'ouvre ce soir le festival et où Gérard Depardieu a longtemps été célébré. À suivre encore l'icône de la mode et de la télé-réalité, Kim Kardashian au tribunal de Paris pour raconter le braquage de ses bijoux. C'était en 2016, nous sommes sur place et puis à partir de 13h30, nous décryptons le phénomène Kardashian, star des réseaux sociaux, devenue femme d'affaires et même défenseur des détenus. 01 45 24 7000 pour être avec nous. Nous parlerons aussi du chef de l'État. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Emmanuel Macron qui travaille en ce moment son émission de ce soir sur TF1.
Oui, un grand oral tout terrain, 2h30 d'émission en direct. Il a beau ne plus avoir de majorité, il a toujours envie de se battre tel un éternel candidat.
A tout de suite Maxence. Dans les prochaines minutes, nous parlerons de ce procès sous haute tension à Bordeaux et des jurés qui ne se sont pas présentés ce matin après une bagarre générale. Hier, le retour de Thomas Joly, le créateur des cérémonies des Jeux Olympiques. Ce sera pour un grand show le 14 juillet à Rouen. Et puis qui se cache derrière les tubes de rap les plus écoutés. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour à tous.
Des beatmakers, des compositeurs.
Oui, Max et Seni, 23 et 26 ans, leur doit pléthore de tubes, créateurs de mélodies. Et ils sont ce soir nominés pour le concours des flammes.
La cérémonie des flammes qui va couronner les grands stars du rap et du hip-hop français. 13h50, c'est la France. Quand les championnats de maths séduisent les jeunes, ce sera avec Cyril Petit. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, l'humoriste Issa Doumbia demande I'm Still Standing, Elton John. Ce sera avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Gérard Depardieu n'était pas là ce matin dans les murs du nouveau palais de justice de Paris pour entendre le jugement du tribunal correctionnel. L'acteur de 76 ans a donc été déclaré coupable d'agression sexuelle sur deux femmes. C'était lors d'un tournage en 2021, ce qu'il avait nié à l'audience. Condamné à 18 mois de prison avec sursis, l'une des deux plaignantes était là, elle, ce matin au tribunal.
Je suis très émue, je suis très très satisfaite de cette décision. C'est pour moi une victoire, vraiment, et une grande avancée, un pas en avant. Et nous avons vécu 4 jours d'enfer la dernière fois pour une espèce d'aménagement horaire dû au problème de santé de Monsieur Depardieu, qui s'avère être en très bonne santé puisqu'il est en train de faire un tournage quelque part aux Açores. Donc je pense qu'on nous a baladés. Pour moi, cette histoire de victimisation secondaire, je trouve que parfois le terme est mal choisi. J'aurais plutôt tendance à parler de double peine. Elle a vraiment tout son sens sur ce procès. C'est très important.
Témoignage d'Amélie, l'une des deux plaignantes. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
C'est vous qui avez recueilli cette réaction ce matin. Vous avez avant cela écouté la lecture du jugement. Sarah, comment a-t-il été motivé ?
Le tribunal a été convaincu par les récits des plaignantes corroborés par plusieurs témoins, alors que les déclarations de l'acteur, elles, ont varié comme si elles s'adaptaient au fil de l'enquête. Pour le tribunal, il a bien commis des agressions sexuelles sur Amélie, que vous venez d'entendre. Gérard Depardieu l'avait bloqué dans un couloir pour lui malaxer les parties intimes en lui tenant des propos graveleux. La production avait exigé des excuses. Il avait aussi touché les fesses et la poitrine d'une jeune assistante réalisatrice à 3 reprises. Le tribunal a tenu compte de l'âge de l'acteur et de sa santé dégradée, mais aussi de sa position, a souligné le président, pour qui ce monument du cinéma n'a pas appréhendé la notion de consentement.
Et l'acteur est aussi condamné, Sarah, à indemniser ces deux femmes pour victimisation secondaire subie durant le procès.
Oui, l'audience en mars avait été marquée par des incidents et les outrances de l'avocat de la défense. « Vous êtes abject, stupide », avait-il lancé aux plaignantes. Ce n'est qu'un échantillon. Pour cela aussi, l'acteur devra indemniser les victimes, 2000 euros. Mais pour les parties civiles, le symbole est important. Voici la réaction de Jérémy Assous, l'avocat de Gérard Depardieu.
À partir du moment où vous êtes mis en cause aujourd'hui dans une affaire dite d'agression sexuelle, vous êtes automatiquement condamné. Et pire, on considère que le fait de remettre en cause les accusations est une agression supplémentaire. On a passé une nouvelle étape, c'est-à-dire que maintenant, la défense même dans ce type d'accusation n'est plus acceptée.
Jérémy Assous qui annonce d'emblée que Gérard Depardieu va faire appel avant d'affronter possiblement dans les prochains mois un nouveau procès pour viol, cette fois, sur la comédienne Charlotte Arnoux.
Merci Sarah Guibaudot, avec les moyens techniques de Romain Luquiens. Alors le hasard a voulu que le calendrier judiciaire percute celui du cinéma. Gérard Depardieu, l'une des plus grandes stars françaises du 7e art, condamné le jour de l'ouverture du Festival de cinéma de Cannes. Il y fut sacré en 1990, prix d'interprétation pour son rôle dans Cyrano de Bergerac. Alors sur place, son ombre plane ce matin. Bonjour William Delesseux.
Bonjour Jérôme.
Et vous l'avez constaté devant le Palais des Festivals.
Et oui, devant les marches ici, avant ce soir, chacun sur son téléphone se renseigne sur la condamnation de Gérard Depardieu en attendant le tapis rouge. Réaction de Martine et Françoise, cinéphiles, la soixantaine, elles font confiance à la justice et pourtant...
Ça me choque parce que je l'aime beaucoup. Quoi. S'il a fait des choses prouvées, bon, c'est normal qu'il soit condamné.
J'ai toujours beaucoup d'admiration en tant que... acteur, l'homme, l'acteur, maintenant. C'est pas plus mal pour lui, de toute façon. Parce que il y a beaucoup d'années de silence derrière et c'est bien que ce soit mis à jour, quoi, des choses comme ça, c'est sûr.
Il fait la queue pour espérer entrer ce soir dans le palais. Élie, 24 ans, salue le jugement sans réserve.
Vous voyez, Brigitte Bardot, il y a toujours une résistance dans les plus anciennes générations. Après, les nouvelles, ça a l'air de quand même beaucoup changer. Il y a quand même beaucoup de directeurs de casting et autres qui sont... vachement ouvert sur le sujet, mais ouais, c'est clairement insuffisant, bah, ça montre clairement qu'il y a toujours une sorte d'impunité malgré tout.
Et pour Blanche, 20 ans, chacun au festival devrait condamner sans ambiguïté les agressions.
Enfin, il n'y a même pas d'excuses en fait, même pas de... c'est un manque de respect envers les actrices, envers les femmes en général, et le fait qu'ils soient défendus, pareil, ça montre une mentalité qui doit évoluer. Ça se produit le premier jour du festival, donc c'est sûr que ça va faire parler.
Et sur la question des violences sexistes et sexuelles, le Festival de Cannes a toujours une ligne d'écoute ouverte pour signaler de telles situations. Et plusieurs débats à table ronde sur le sujet seront organisés tout au long de la quinzaine.
William Delesseux à Cannes avec Gilles Gallinaro, merci à tous les deux. Elle est là, et bien là, toujours à Paris, toujours dans un palais de justice, mais cette fois sur l'île de la Cité, au cœur de la capitale. La star américaine Kim Kardashian, victime en 2016 d'un braquage retentissant dans sa chambre d'hôtel. Le procès des vieux malfrats accusés du vol de 9 millions d'euros de bijoux a débuté la semaine dernière. Mais avec le témoignage de l'une des personnalités les plus suivies au monde sur les réseaux sociaux, ce procès bascule dans une autre dimension. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous êtes sur place, Kim Kardashian doit prendre la parole dans quelques minutes. Dans quelles conditions? Décrivez-nous.
Écoutez, c'est du jamais vu, hein, un palais de justice pris d'assaut par les caméras, les photographes, cour d'honneur, accès à la salle d'audience, il y a foule, beaucoup de public également. Les premiers sont arrivés à 5h ce matin, dans la perspective donc du témoignage de la reine des réseaux sociaux. 350 millions d'abonnés sur Instagram, difficile à se représenter, sauf à dire que c'est au-delà de la population des États-Unis. Kim Kardashian, qui a donc décidé de venir en personne, elle n'y était pas tenue, raconter ses faits qu'elle a subis cette nuit du 2 au 3 octobre 2016 et qui l'ont contrainte à revoir ses habitudes de vie.
Et ce matin, l'une de ses proches a raconté à la barre ce braquage.
Oui, il s'agit de Simone Bretter, 45 ans, amie d'enfance de Kim Kardashian et sa styliste personnelle à l'époque, ce qui explique sa présence dans la suite en duplex occupée par la star américaine pendant son séjour à Paris à l'occasion de la Fashion Week. Réveillée par l'intrusion des braqueurs, Simone Bretter se réfugie dans sa salle de bain, cachée dans la douche. Elle entend Kim Kardashian crier « J'ai des bébés, je dois vivre, prenez tout mais laissez-moi en vie ». La styliste qui perçoit la terreur dans la voix de Kim, mais ce n'est rien par rapport à l'état dans lequel elle la retrouve après le départ des braqueurs, les pieds liés, à moitié déshabillée. Elle hurlait, c'était comme si elle n'était plus dans son corps. Je ne l'avais jamais vue dans un tel état, poursuit la partie civile. D'ailleurs, sa vie a complètement changé en termes de sécurité. Même moi, je ne peux plus me rendre chez elle sans avoir été annoncée sur une liste de visiteurs et passer des contrôles de sécurité. Et si Kim Kardashian est toujours aussi active sur les réseaux sociaux, elle ne poste plus jamais en temps réel, assure son amie.
Charlotte Piret, Johanna Gabric en direct du Palais de Justice de Paris. On reparle à partir de 13h30 avec notre invité de cette personnalité et avec vous 01 45 24 7000 pour vos questions. Procès d'assises très sécurisé, donc on l'a compris en ce moment à Paris. Pas assez manifestement à Bordeaux, où hier soir les forces de l'ordre ont été débordées dans l'enceinte même du tribunal. Des affrontements ont éclaté au premier jour du procès de trois jeunes hommes jugés pour la mort d'un adolescent. C'était en janvier 2021, ado mortellement blessé lors d'une fusillade dans son quartier des Aubiers. Et ce matin, au deuxième jour du procès, des jurés ont préféré ne pas venir par crainte. Sur place, visiblement, les tensions entre quartiers se font toujours sentir, Jules Brelaz.
Oui, tous les témoins racontent la même scène. Une dizaine de jeunes d'un quartier rival des Aubiers qui arrivent hier soir dans le public à visage découvert mais avec des cache-coups, sorte de cagoule pour moto que l'on peut remonter pour se dissimuler. Certains portaient aussi aux mains des gants coquets, c'est-à-dire renforcés comme pour en découdre. Ce groupe aurait soigneusement évité de passer par le portique de sécurité de l'entrée en empruntant plutôt la passerelle qui relie le tribunal judiciaire voisin à la cour d'assises. Un passage ouvert au public mais surtout connu des habitués du palais de justice. Puis ensuite, la bagarre qui éclate dans la salle des pas perdus, les policiers débordés, les parties civiles choquées, notamment les parents de Lionel Cess, l'adolescent tué, qui n'en ont pas dormi de la nuit. Les accusés de leur côté démentent avoir été les commanditaires de ces violences qui ont de quoi intimider. Deux jurés de la cour sont d'ailleurs absents ce matin. Ils se sont désistés et l'un d'eux a déclaré qu'il était terrorisé par peur de représailles.
Précision ici, Gironde. On a appris il y a quelques minutes la mort de trois ouvriers département de Côte d'Or. Cela s'est passé sur un chantier commune de Pomard. Trois ouvriers sont morts dans la chute d'un mur. Ils sont ouvriers d'une même entreprise. Ils ont été ensevelis sous les décombres au moment où ce mur s'est effondré.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Quel est le point commun entre la patronne de la CGT, Sophie Binet, le youtubeur fitness Thibaut InShape et l'ex-journaliste atteint de la maladie de Charcot, Charles Biétry? Eh bien, tous trois vont interpeller avec d'autres ce soir sur TF1 le président de la République lors d'une émission intitulée « Emmanuel Macron, les défis de la France ». Plus de deux heures de direct, tous les sujets sur la table et l'enjeu pour le chef de l'État de se relancer, lui qui reste impopulaire et qui n'a plus de majorité à l'Assemblée. Alors parmi les intervenants du soir également, le maire de Béziers, Robert Ménard, qui lui voudra parler sécurité.
Je vais lui dire qu'il y a les mots, il y a les promesses, il y a les grandes déclarations, et puis il y a la réalité. Et la réalité, elle est terrible, pas seulement dans un certain nombre de quartiers, pour quasiment tous les gens. Et donc, je vais lui donner les exemples, je vais lui dire qu'est-ce qu'il compte faire là-dessus. Écoutez, il y a des années, il y a 8 ans qu'il est au pouvoir maintenant, et là, le bilan, il est vraiment négatif. Et donc, je vais parler de ça avec lui. Ensuite, je vais parler de l'immigration avec lui aussi. Il ne s'agit pas de montrer du doigt qui que ce soit, mais il s'agit de dire une immigration qui n'est pas choisie, une immigration qui n'est pas contrôlée, ça pose des problèmes et je vais lui donner un certain nombre d'exemples de ces problèmes-là. Et j'espère avoir des réponses au moins concrètes.
Robert Ménard, Maxence Lambrec, chef du service politique d'Inter, on vous retrouve. Il y a un petit côté Macron grand débat ce soir, est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, clairement. On se rapproche même de questions pour un champion, présente un député, tellement les sujets sont nombreux. En effet, du trafic de drogue à Morlaix, aux droits de douane pour le cognac, de la patronne de la CGT au maire de Béziers qu'on vient d'entendre, du voile dans le sport avec une championne d'haltérophilie à la fin de vie, 11 intervenants, dont 4 en plateau, plus des questions d'internautes et une page internationale. Ça a tout l'air d'un format de campagne présidentielle. Un candidat sur le grill pendant plus de 2 heures. TF1 pourrait reprendre la même formule dans 1 an et demi. Mais non, c'est bien un président dont il reste 23 mois aux commandes, sans majorité, qui fera ainsi face aux Français. Attention à ne pas trop promettre, se dit un de ses soutiens. Il n'a que très peu de leviers. J'espère que ce sera surtout une défense de son bilan. Un ancien ministre ajoute, le gros risque, c'est qu'il liste en creux toutes les faiblesses du gouvernement Bayrou et que son impatience rejaillisse sur tous les dossiers. Le plus dur pour lui, ce serait l'indifférence, ajoute un député de son camp, qu'il fasse une moins bonne audience que Koh-Lanta, diffusée d'ordinaire le mardi soir sur TF1. Ça sera demain à 9h pour le résultat.
C'est ça, on regardera les audiences, on va scruter aussi les annonces et on sait, Maxence, que le chef de l'État est très tenté de consulter les Français pour reprendre la main.
Oui, la forme n'est pas encore arrêtée. Hier, ça a beaucoup bougé, nous raconte un ministre. L'idée de plusieurs référendums le même jour s'est un peu éloignée. Trop contraignant, trop dangereux politiquement. Et si ce n'était qu'une consultation, une sorte de QCM pour ou contre différents sujets, sans valeur juridique. Rien n'est acté, nous dit un de ses proches. Il fera ça au feeling en direct ce soir.
Merci Maxence Lambrec. Et ce matin, Marine Le Pen, elle appelle à un référendum sur l'immigration. Pour poursuivre sur le fond, on va s'arrêter maintenant sur quelques dossiers chauds du moment. On va parler de la situation financière de nos EHPAD publics. Dans un instant, la Nouvelle-Calédonie aussi, un an après les émeutes. Mais avant cela, ArcelorMittal, le géant de l'acier confronté à la concurrence asiatique, réduit la voilure en France. Plan de licenciement de plus de 600 personnes annoncé. Un plan examiné ce matin en CSE au siège du groupe en France, à Saint-Denis, où vous vous trouvez. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Quelques centaines de salariés se sont invités devant le bâtiment.
Ouais, des salariés qui ne peuvent accepter ce plan social. Jean-Marc Vécrin a d'autant plus de raisons que de s'opposer, avec 30 ans sur le site de Florange derrière lui.
J'ai connu 2012, le haut fourneau et tout, mais là j'ai bien peur que ce soit bien pire. À l'époque, on avait pu reclasser les gens, il y avait encore du travail, etc. Là, aujourd'hui, c'est très, très compliqué et j'ai bien peur que c'est que le début. Donc, c'est pour ça qu'il faut stopper ça le plus rapidement possible.
Pour cet autre salarié sur le site de Mardic, à l'ouest de Dunkerque, qui sait jusqu'où tout ça peut bien aller?
C'est le haut fourneau de Dunkerque, c'est un des plus gros fourneaux d'Europe. En Inde, il fait deux fois ce que Dunkerque fait. C'est phénoménal. Moi, c'est les Indiens qui m'inquiètent. Là, on nous dit, si à Mittal, on perd de l'argent. Non, ils en gagnent.
Ces métallos qui fustigent une vision financière du groupe, qui pourtant a touché des aides, beaucoup d'aides de la part de l'État. Seule manière de stopper tout ça, la nationalisation qui pourrait ne coûter que 500 millions à 1 milliard d'euros, entre guillemets, pour Gaëtan Lecoq de la CGT à Dunkerque.
Si demain, les 16 000 emplois, rien que les 16 000 emplois d'ArcelorMittal disparaissent, ça va coûter que pour les allocations chômage 1,5 milliard d'euros à l'année. Donc ça veut dire que en quelques mois, on pourrait rentabiliser cet investissement.
Les salariés qui attendent d'Emmanuel Macron, bien plus qu'un mot, ce sera ce soir plutôt des actes.
Maxime. Il doit s'opposer fermement, par volonté politique, par courage politique aussi, à insuffler et à dire non à ce plan social comme nous, nous le disons non aujourd'hui. Voilà. Si Macron veut gagner en souveraineté, c'est le moment ou jamais.
Parole au président, dont l'intervention, vous l'aurez compris, sera très scrutée ce soir.
Merci Maxime Debs, en direct de Saint-Denis, avec les moyens techniques de Julien Girard. Le constructeur auto japonais Nissan, lui, a annoncé ce matin une perte colossale en 2024-2025. Près de 4 milliards d'euros, il va supprimer 20 000 emplois, soit 15% de ses effectifs. J'en viens donc à la situation en Nouvelle-Calédonie. Il y a un an, jour pour jour, l'archipel était en proie à des émeutes jamais vues depuis 1980. Bilan 14 morts et 2 milliards d'euros de dégâts et le retour au calme est toujours précaire. D'ailleurs, les négociations entre indépendantistes et loyalistes menées ces dernières semaines viennent d'échouer. Bonjour Lise Rosveille.
Bonjour.
Et aujourd'hui, les non-indépendantistes demandent au président de la République et au Premier ministre de reprendre la main sur ce dossier. Pour eux, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, est disqualifié.
Il a commis une faute politique, selon Virginie Rufnacht, présidente du groupe Rassemblement LR au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Elle a participé aux discussions pour les non-indépendantistes.
Nous, on considère effectivement qu'il n'a aujourd'hui plus de légitimité à mener des discussions après ce qui vient de se passer. Et en tous les cas, on en appelle effectivement à d'autres interlocuteurs d'État pour nous traiter.
En cause, le projet défendu par Manuel Valls sur le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Il prévoyait la double nationalité pour les habitants, nationalité française et calédonienne, et le transfert de toutes les compétences régaliennes vers l'archipel. Une proposition inadmissible pour les non-indépendantistes.
En vrai, ce statut, ça s'appelle l'indépendance, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie serait un nouvel État. Et c'est vraiment finalement étouffer la voix du peuple, puisque les Calédoniens, encore une fois, majoritairement ont choisi de ne pas être indépendants et que la Calédonie reste au sein de la République française.
Ils ont voté trois fois contre l'indépendance de l'archipel, mais le dernier référendum en 2021 a été largement boycotté par les indépendantistes. Depuis, la situation politique est au point mort. Comment organiser dans ce contexte les prochaines élections provinciales? Elles ont déjà été reportées d'un an et doivent se tenir avant le 30 novembre. Et avec quels électeurs? Le dégel du corps électoral avait provoqué les émeutes il y a tout juste un an. Manuel Valls propose aujourd'hui un statu quo, encore un renoncement du ministre, dénonce les non-indépendantistes.
Lise Rosveille, et terminons ce tour d'horizon des quelques enjeux forts du moment avec là encore un sujet que nous avons déjà traité ici même et qui concerne de très nombreux Français, c'est la situation dans les EHPAD publics. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
7 sur 10 étaient en déficit fin 2024 d'après le dernier bilan de la Fédération hospitalière de France.
Oui, et malgré les multiples fonds d'urgence, les EHPAD publics peinent à sortir la tête de l'eau. Effet de la crise sanitaire, de l'inflation, la Fédération hospitalière de France parle de 2 milliards de déficits cumulés depuis 2022. On écoute sa déléguée générale, Zeynep Brier.
C'est une réalité que l'on ne peut plus ignorer. C'est la troisième année consécutive de déficit massif dans un secteur historiquement à l'équilibre.
Risque de ne pas s'améliorer. La FHF met en cause une récente hausse des cotisations retraite des agents des collectivités locales, des coûts supplémentaires que l'État ne prévoit pas de compenser intégralement.
Nous pourrions d'ici 2028 avoir 100% des EHPAD publics en déficit. Alors quand toutes les structures peuvent passer dans le rouge, ce n'est plus un accident isolé, c'est le signe que le système ne tient plus.
Sur le terrain, le déficit, c'est moins de recrutement, des investissements reportés et en bout de chaîne, des risques pour les personnes âgées, d'après Marc Bourquin de la FHF.
Ce qui va se passer si on ne fait rien,
En 2030, on dira, c'est un drame, des milliers de personnes ne sont pas prises en charge, il y a une canicule, on ne peut pas porter secours aux personnes. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais c'est ce qui va se passer inexorablement, puisqu'on va avoir un quasi-doublement dans les 20 ans qui viennent des personnes très âgées.
Et la Fédération hospitalière de France réclame une loi de programmation grand âge, ainsi qu'un vrai débat de société sur le financement de la dépendance.
Alice Cachaner. C'est la diplomatie du golf, pas le sport que Donald Trump pratique assidûment chaque week-end. Non, le golf persique où le président américain est arrivé ce matin, visite de 4 jours dans la région, qui commence par l'Arabie Saoudite, l'un des plus anciens alliés des États-Unis, pays pour lequel le businessman Trump a aussi un penchant tout particulier. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Et l'accueil a été à la hauteur ce matin.
Oui, vous vous en souvenez peut-être, il y a 8 ans, Donald Trump, pour son premier mandat, avait dû participer à la danse du sabre. C'était assez folklorique à l'époque. Cette fois, c'est plutôt éclatant. Air Force One a été escorté par la chasse saoudienne. Le prince héritier Mohamed Ben Salman était sur le tapis couleur pourpre au pied de l'avion pour recevoir le président américain. Les deux hommes se connaissent. Trump décrit le prince comme un gars formidable et il fait de l'Arabie Saoudite un état pivot dans sa politique commerciale et diplomatique.
On peut parler, Étienne, de diplomatie des intérêts entre un pouvoir qui veut l'énergie nucléaire et puis un autre qui lui veut faire des affaires.
Oui, le dossier iranien sur le nucléaire. Le Proche-Orient est en ébullition avec Gaza, mais c'est forcément, ça restera forcément une toile de fond. La coloration de ce voyage porte pour l'instant essentiellement sur l'alignement des intérêts économiques. L'Arabie Saoudite entend se servir de sa fortune colossale pour gagner les faveurs de l'Amérique. Le président américain attend donc un investissement de 1000 milliards de dollars sur son sol. Les patrons d'Amazon, d'OpenAI pour l'intelligence artificielle, de Boeing et l'incontournable Elon Musk devrait déjeuner tout à l'heure avec les deux dirigeants. Des contrats d'armement pourraient faire partie des accords. Une discussion sensible devrait avoir lieu sur la baisse du prix du pétrole souhaité côté américain. En échange, l'Arabie Saoudite pourrait rechercher des garanties de sécurité et la coopération des États-Unis pour développer un programme de nucléaire civil. Il est pour l'instant conditionné à des engagements sur la non-prolifération. Il était également couplé au dossier palestinien. Le président américain devrait s'exprimer dans 2h30 devant un forum d'investisseurs.
Merci Étienne Monin. Visite guère appréciée par les Israéliens. Les relations se sont nettement refroidies ces derniers jours entre Israël et les États-Unis. L'armée israélienne qui a revendiqué hier soir le bombardement d'un hôpital de la bande de Gaza. Un journaliste palestinien a été tué dans cette frappe. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. C'était l'un des journalistes les plus connus de l'enclave. Il était, selon Israël, lié au Hamas.
Oui, Hassan Asli travaillait notamment avec l'agence de presse américaine AP et la chaîne de télévision CNN. Les deux médias ont arrêté de collaborer avec lui après l'attaque terroriste du 7 octobre 2023. Hassan Asli est en effet entré ce jour-là en Israël avec des miliciens de la branche armée du Hamas pour couvrir le massacre, précisant cependant ne pas avoir eu connaissance des objectifs de l'organisation islamiste. Selon plusieurs sources sur place qui préfèrent, pour des raisons de sécurité, rester anonyme, Hassan Asli avait ses entrées au Hamas et bénéficiait d'informations exclusives que d'autres journalistes n'avaient pas. Rien ne prouve cependant qu'il adhérait à l'idéologie du mouvement et évidemment rien ne justifie l'exécution extrajudiciaire dont il a été victime.
Oui, car les conditions de sa mort interrogent également.
Oui, Hassan Asli a été tué après une frappe ciblée dans sa chambre de l'hôpital Al-Nasser de Khan Younes. C'est au sud de Gaza. Il se savait en sursis après avoir été visé et blessé il y a plus d'un mois dans un bombardement israélien sur des tentes de journalistes. Selon les conventions de Genève et le droit international humanitaire, un blessé doit être protégé. Un hôpital ne peut pas être bombardé, à moins que l'assaillant prouve que l'établissement servait de base pour préparer des attaques. C'est ce matin ce cas avance l'armée israélienne.
Merci Thibault Lefebvre, en direct de Jérusalem. À propos de cette guerre à Gaza, le journal Libération publie ce matin une tribune intitulée « À Cannes, l'horreur de Gaza ne doit pas être silenciée ». Des grands noms du cinéma mondial l'ont signé, Pedro Almodovar, Richard Gere ou encore le cinéaste Costa Gavras.
Il est un moment de commencer à réagir. Je pense qu'il faut trouver une solution à cette catastrophe humaine et le plus vite, c'est le mieux. La seule chose qu'on peut faire, c'est de signer une pétition et de rappeler que beaucoup de journalistes ont été tués. Surtout quand on pense que les auteurs des films primaires ont été des victimes quand même de cette catastrophe et aussi parce que nos collègues américains n'ont pas beaucoup réagi. Et ça, c'est très triste parce qu'ils ont toujours réagi depuis toujours. Ils ont réagi face à des catastrophes humaines et là, on s'aperçoit qu'ils laissent faire leur président qui fait partie des responsabilités dans cette catastrophe et qui ne fait rien du tout. Et que le cinéma américain ne réagisse pas, il était temps qu'à Cannes, on le leur demande. Vu qu'il y a plus de 50 000 personnes qui sont tuées, ça approche un génocide. Mais je pense que c'est à la justice de décider juridiquement si ce terme tient ou pas.
Costa Gavras au téléphone d'Alexis de Meyers, qui nous ramène à Cannes côté cinéma, cérémonie d'ouverture ce soir avec une palme d'or d'honneur remise à Robert De Niro par son compatriote Leonardo DiCaprio. Nos téléphones nous écoutent-ils ? Vieille question, les fabricants ont maintes fois démenti, mais des Français lancent aujourd'hui une action collective contre le géant américain Apple, accusé de réaliser des enregistrements à travers son assistant vocal, le bien connu Siri. Cette procédure en France s'inscrit dans la lignée d'un procès aux États-Unis qui s'est soldé par un accord à l'amiable, accord à 95 millions de dollars tout de même. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour.
Les détenteurs d'appareils Apple sont donc appelés à se signaler.
Oui, sur un site écoutesabusives.fr, ils sont déjà plusieurs centaines. Et l'un des premiers à l'avoir fait s'appelle Nicolas, cadrat parisien et cerné.
Ah, j'utilise tous les produits Apple. J'ai un Mac, j'ai un iPad et j'ai un iPhone.
Il évoque ces pubs ciblées qui apparaissent sur son écran après certaines conversations.
On a parlé de camping. 5 jours plus tard, je me retrouve avec des publications de Facebook, des publications de Google et qui me proposent une tente que je peux acheter sur Wish.
Et aujourd'hui, il soupçonne Siri de l'écouter.
J'ai un doute. Et ça me pose vraiment problème. Quand j'utilise un produit Apple, j'ai envie de savoir si je suis écouté ou pas.
Alors si Apple a reconnu l'utilisation des données pour l'entraînement de Siri et modifié ses règles ces dernières années, sur les derniers modèles d'ailleurs, une petite lumière orange s'allume quand le micro est ouvert, la firme a toujours nié toute commercialisation. L'apparition des pubs ciblées peut s'expliquer par d'autres facteurs comme une recherche effectuée par un autre appareil sur le même réseau Wi-Fi. Ce sera en tout cas l'une des questions au cœur de cette action, confirme Olivia Roche, l'une des avocates à l'origine de la procédure. Elle compte sur l'effet de masse.
L'objectif, c'est vraiment de peser sur ces gros acteurs qui ont un peu une tendance à s'émanciper des règles de protection de la vie privée. Le fait d'agir de manière coordonnée et collective, ça permet évidemment d'avoir un poids plus important.
Les avocats vont réclamer le remboursement des produits dans une tentative de résolution à l'amiable d'abord, puis si nécessaire, devant la justice.
Xavier Demani, vous avez aimé les shows de Thomas Joly pendant les derniers Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous en demandez encore ? Eh bien, cela se prépare à Rouen, selon les informations de nos confrères d'ici Normandie. Le directeur artistique rouennais veut créer un événement, un show pour le 14 juillet. Et l'idée serait qu'il soit itinérant, donc dans une ville différente de France, chaque 14 juillet pendant les 4 prochaines années. Elle a été l'un des visages et l'une des voix de la cérémonie d'ouverture des Jeux. La chanteuse Aya Nakamura sera ce soir l'une des têtes d'affiche de la 3e cérémonie des Flammes, qui récompense les artistes de rap, hip-hop ou encore R&B de la scène française. Et parmi les tubes les plus écoutés du moment, derrière ces tubes, se cache Victor Vasseur, des personnages qu'on connaît peu et que vous allez nous présenter. C'est un jeune duo français dans l'ombre de tous les grands rappeurs français. Ils s'appellent Max et Seni.
Ces deux frères de 23 et 26 ans sont des créateurs de mélodies entêtantes comme ce morceau d'Aya Nakamura. La star franco-malienne est venue dans leur studio construit dans le garage de leurs parents en Seine-et-Marne.
Ça, c'est dingue. C'était une fierté, hein. Nos parents, ils étaient trop contents. Quand on était plus petits, on nous demandait vous voulez bosser avec qui ? On disait que Black, on disait Aya. C'est dingue qu'elle vienne à la maison comme ça. Ça a donné ce que ça a donné, les succès derrière, donc c'est trop bien.
Max et Seni composent des titres qui cumulent des dizaines de millions de vues sur les plateformes et d'écoutes, comme ce morceau de Que Black et Franglish. Les deux musiciens proposent des chansons clés en main aux artistes, paroles et instrumentales, et pourtant, ils sont inconnus du grand public.
C'est un métier ingrat quand même. C'est pas évident de réussir à s'en sortir et à en vivre du métier de compositeur. Il y en a très peu au final. Pour le nombre de compositeurs qu'il y a, il y en a très peu qui en vivent.
Heureusement que quand on se lance, on cherche pas à avoir de la lumière en fait. En France, c'est bouché.
Malgré tout, si on n'est pas là, quand il y a un hit, le hit n'existe pas si on n'est pas là pour faire l'instru à la base.
Pour ces amoureux de foot, cette cérémonie, les flammes, c'est la récompense suprême, il l'affirme. C'est notre ballon d'or à nous.
Merci Victor Vasseur. Ça commence souvent dans un garage. Hein. C'était le cas pour Apple. C'était le cas aussi pour Max et Ceni. Merci de nous les avoir présentés. 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, comment Kim Kardashian, qui est en ce moment au tribunal de Paris, a construit sa fortune et sa célébrité. On en parle ensemble et avec notre invité 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h45, notre feuilleton avec notre tireur photo. C'est une profession qui existe encore et on va vous le prouver avec ce feuilleton encore aujourd'hui. 13h50, c'est la France, c'est une chanson. Cyril Petit, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous ?
Eh bien de Bressuire dans les Deux-Sèvres à Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne en passant par Yssingeau en Haute-Loire, on verra, Jérôme, comment on peut mêler les mathématiques et le jeu.
Sans calculatrice, c'est important. Avec vous Frédéric, un comédien.
Il est également humoriste, il s'agit d'Issa Doumbia. Il est actuellement en tournée avec son seul en scène, Monsieur Doumbia. Et avec lui, c'est une chanson d'Elton John que nous écouterons. Chanson qui le ramène à la fois à son père et à son fils.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Allô les enfants, vous m'entendez ? Je suis bien sur France Inter ? Super. Je suis professeur Caillou, géologue au BRGM, le bureau de relaxation pour les girafes majestueuses. C'est le bureau de recherche géologique et minière. Et avec mon jeune collègue Abel, nous aidons des cailloux en détresse.
Les aventures du professeur Caillou.
C'est un pousque, un poumque, un podcast à écouter sur l'application Radio France, les petits silex.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec le baume Hydradéfense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Ciel changeant aujourd'hui avec des averses et des orages.
Oui, les nuages prennent de l'ampleur, ça n'empêche pas quelques belles éclaircies de temps en temps, mais les averses reprennent du service cet après-midi. Des orages peuvent éclater du Massif central à la Bretagne, des Pyrénées vers le sud-ouest, du Jura vers la région parisienne, la baie de Seine et les Hauts-de-France. Des orages aussi des Alpes à l'intérieur de la Provence et sur le relief Corse. Il y a un risque de grêle sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le sud des Alpes jusqu'à l'intérieur de la Provence. Le soleil domine tout de même sur le littoral de la Méditerranée et de la Nouvelle-Aquitaine, et puis aussi des Ardennes vers le nord de l'Alsace. Température en hausse au nord, plus conforme au sud, alors 18 à 21 degrés sur le nord-ouest, souvent 20 à 24 ailleurs, les 24 pour Lille, Grenoble, Orange. Et demain, on aura plus de soleil, encore des orages l'après-midi sur le nord-ouest et sur le relief du sud, et des températures en hausse.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, de 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Nesrine Slaoui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous
avec
dans
plaisir.
Ce 13-14. Vous êtes journaliste et vous avez coécrit l'an dernier un documentaire avec notre confrère de France Culture, Guillaume Herner. Documentaire qui s'intitule Kim Kardashian Théorie. C'est passionnant. C'est d'ailleurs toujours disponible sur Arte TV. Et c'est un portrait du phénomène Kim Kardashian, mais alors dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire qu'on parle de la télé-réalité, les réseaux sociaux, le sexe symbole, la femme d'affaires lancée dans la mode, dans les produits de beauté, la politique aussi. Moi j'avais oublié sa croisade en faveur des droits des détenus aux États-Unis pour les prisonniers, l'amélioration de leurs conditions de détention. On va parler de tout cela avec les auditeurs aussi qui connaissent forcément cette figure plus ou moins bien. 01 45 24 7000 pour vos appels pour être avec nous. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que c'est aujourd'hui que Kim Kardashian est à Paris. On était avec Charlotte Piret en direct du Palais de Justice tout à l'heure, dans le cadre du procès de ces papis braqueurs qui l'ont menacé dans sa chambre d'hôtel parisien. C'était en 2016 pour lui dérober pour 9 millions d'euros de bijoux. Et Kim Kardashian est arrivée il y a quelques minutes au Palais de Justice de Paris. Si on se projette dans ce Palais de Justice, Nesrine Slaoui, vous l'imaginez comment Kim Kardashian? Parce qu'il y a énormément de journalistes, d'appareils photo, de caméras qui sont là. Est-ce qu'elle est dans son élément? Est-ce qu'elle aime ce type de situation? Au contraire, ça peut être délicat à gérer pour elle.
C'est assez paradoxal parce que c'est effectivement quelqu'un qui est très à l'aise avec les caméras. Elle est filmée depuis 14 ans, 15 ans même avec sa famille dans une télé-réalité. Donc elle a l'habitude des caméras, elle sait jouer avec. Mais c'est un moment particulier parce que de ce braquage-là, on n'en a pas tellement parlé. On en a parlé une seule fois chez Netflix dans une longue interview. Elle était très émue parce qu'elle raconte en fait, et c'est sûrement ce qu'elle va raconter d'ailleurs tout à l'heure à la barre, qu'elle a cru ce soir-là être violée et être tuée.
Ces hommes étaient là dans sa chambre, elle sort de sa douche.
Exactement, et elle était nue sous son peignoir. Et à un moment, le peignoir tombe légèrement sur sa jambe. Donc, elle pense vraiment être victime ce soir-là d'un autre crime, d'autres crimes. Donc, on sent aussi qu'il va y avoir une forme d'émotion particulière. Et elle tient à son statut de victime. En fait, c'est très important pour elle de venir à Paris. Elle a hésité pendant longtemps. Elle a voulu témoigner d'abord en visioconférence. Mais elle est là, elle se déplace parce qu'elle veut que soit reconnu ce statut de victime. Parce qu'on l'a accusée de plein de choses. On oublie un peu ce qui s'est passé en 2016. Mais on l'a accusée d'avoir mis ça en scène pour les assurances, pour les caméras. On a dit qu'elle n'était pas vraiment victime. Ce soir-là, on a aussi essayé aussi de dire qu'elle était un petit peu coupable d'avoir montré ses bijoux sur Internet, d'avoir autant mis en scène sa vie sur les réseaux sociaux.
Donc, ce qu'elle ne fait plus maintenant, a dit sa styliste ce matin, qui était...
En fait, elle est en différé. C'est-à-dire qu'avant, quand on suivait Kim Kardashian dans les années 2012, 2014, 2015 sur Instagram et Snapchat, parce que c'est les outils qu'elle utilisait pour communiquer avec son public, elle était effectivement très précise sur là, je suis dans telle boutique. D'ailleurs, avant le braquage, elle avait dit qu'elle était dans une boutique Givenchy, donc c'est comme ça que les braqueurs ont pu la tracer dans Paris. Donc maintenant, elle ne fait plus ça. Elle ne dit plus exactement où elle est, même si elle reste quand même... C'est très américain. Elle reste très transparente sur son argent, sur comment elle le dépense, sur ses voyages luxueux, sur les jets privés. Elle a été épinglée plusieurs fois d'ailleurs par souci écologique pour ces déplacements-là. Et donc, c'est vrai que c'est une posture particulière pour elle parce qu'elle veut reconnaître. Elle veut que la France lui reconnaisse son statut de victime, qui a été reconnu assez rapidement aux États-Unis parce qu'il y a eu une forme de décalage où là-bas, effectivement, on parlait d'une mère de famille, d'une femme qui a été agressée dans sa chambre à 2h du matin, 2h30 du matin. Et nous, c'est vrai que le traitement médiatique à l'époque était un peu plus décalé. C'était un peu finalement, est-ce qu'elle ne méritait pas cette petite starlette des réseaux sociaux d'être attaquée de la sorte.
Vous nous expliquez à quel point elle met sa vie en scène. Je ne sais pas si elle le fait toujours autant aujourd'hui, si elle publie toujours autant aujourd'hui d'ailleurs.
Non, elle publie moins. Ça s'est professionnalisé comme toutes les influenceuses et les influenceurs. C'est-à-dire que maintenant, ils choisissent quels éléments de leur vie il communique. Sa petite fille, Norse, a pris le relais sur TikTok où elle filme sa maman en train de danser. Donc on a un petit peu quand même accès encore à elle dans son intimité. C'est vrai que c'est un peu plus cadenassé. Même sa nouvelle version de télé-réalité qui est diffusée sur Disney+, a totalement changé d'angle. C'est-à-dire c'est beaucoup plus un angle économique. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle veut se présenter, comme une businesswoman. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est devenue milliardaire avec sa marque Skims. Donc c'est elle veut sortir un peu de cette image sulfureuse, de cette image de sexe symbole, pour se diriger vers la businesswoman, celle qui donne des cours à Harvard.
Exactement. Etc. Comment tout cela a-t-il débuté? À quel moment est-ce que Kim Kardashian, très jeune, commence à se mettre en scène, quand la technologie est arrivée avec le début des réseaux sociaux?
Alors c'est même avant ça, parce qu'elle était d'abord styliste de Paris Hilton, avant de lancer sa propre télé-réalité à elle-même en 2007. Elle apparaît dans la télé-réalité de Paris Hilton, elle est la styliste.
Autre starlette américaine, je ne sais pas si on peut employer ce qualificatif, figure de la télé-réalité.
Et puis c'est surtout ce qu'on appelle aujourd'hui une nepo baby, une enfant du népotisme, Kim Kardashian, dans le sens où elle est quand même héritière de Robert Kardashian, qui est un avocat très respecté aux États-Unis, en tout cas qu'il l'était parce qu'il est décédé, et qui était lui-même d'une famille qui a fait fortune dans les abattoirs. Donc on est quand même sur une Amérique particulière, une Amérique de l'argent, une Amérique aussi des relations sociales, du m'as-tu vu. Enfin, on est quand même dans un cercle très particulier. Et donc elle s'immisce comme ça dans nos télés, dans nos médias via Paris Hilton. Et puis il y a cette histoire de la sextape. Alors moi je suis pas du côté de ceux qui disent qu'elle a choisi de
donc
la diffuser.
Donc cette vidéo pornographique avec son petit ami de l'époque, qui est dévoilée quelques années d'ailleurs après les faits, je crois.
2005-2006 en gros, donc qui est dévoilée. Et donc elle a été accusée d'avoir elle-même choisi de divulguer cette vidéo, etc. Moi je pense qu'elle était plutôt victime et qu'elle a su en faire un objet marketing derrière, et qu'elle a su commercialiser ensuite tout le buzz. Et c'est le grand point fort de sa carrière, c'est la commercialisation du buzz. Et c'est une femme qui a toujours su susciter la polémique sur les réseaux sociaux et s'enrichir avec la polémique sur les réseaux sociaux. Donc,
et jusqu'à imposer son image via ses selfies, ses photos d'elle-même qu'elle ne cesse de poster. Et vous expliquez expliqué dans le documentaire à quel point elle a imposé une nouvelle esthétique pour de nombreuses jeunes filles à travers le monde.
C'est tout le paradoxe de Kim Kardashian, c'est qu'en fait elle ne représente pas une beauté de ce qu'on attendait des Kate Moss dans les années 80-90 par exemple. C'est-à-dire c'est une femme plutôt petite, elle fait 1m60 à peu près, hein, un peu plus grande, mais elle est vraiment très petite.
J'ai l'impression qu'elle était plus grande, mais il y a souvent les talons.
Oui, les talons qui jouent un peu. Donc elle est plutôt petite de taille, elle est aussi, elle a des formes, même naturellement, elle les a effectivement accentuées avec la chirurgie esthétique, même si là elle fait un retour en arrière, elle a des formes, c'est une femme typée, d'origine arménienne, donc voilà. Et donc c'est vrai qu'elle a imposé des nouveaux standards de beauté dans la mode, qui ont décomplexé certaines femmes, mais qui ont complexé d'autres femmes, parce que du coup c'est devenu à la mode d'avoir le fessier de Kim Kardashian, donc beaucoup de femmes se sont mises au squat, à la salle de sport, aux injections, au BBL, etc. Et donc c'est vrai que ça a joué un impact dans les standards de beauté, donc qu'est-ce qu'on considère comme beau, notamment chez nous en Occident, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Elle a bouleversé nos codes et elle a aidé beaucoup de femmes à se sentir mieux dans leur peau et mieux dans leur forme, parce qu'on oublie aussi que Kim Kardashian, par exemple, c'est le partenariat avec Balmain en 2015 et des robes ultra moulantes avec des formes très prononcées. Donc ça a décomplexé aussi beaucoup de femmes là-dessus.
Forme dont elle parle sans complexe, extrait de votre documentaire.
Je suis trop contente d'être là ce soir pour vous montrer que je suis bien plus qu'un ravissant visage. Des cheveux soyeux, un maquillage maîtrisé, des seins incroyables et des fesses parfaites. Je suis bien plus que la photo que mes sœurs montrent à leur chirurgien esthétique.
Je suis bien plus que cette photo. Il y a une phrase qui dit tout, je crois, dans votre documentaire, c'est « On aurait tort de ne pas prendre la star au sérieux ».
Exactement. Et nous d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'on a décidé avec Guillaume Erner, en faisant ce documentaire, de la prendre très au sérieux avec des kimologues, c'est-à-dire des spécialistes de Kim Kardashian du monde entier, parce que c'est ce qu'il faut lui reconnaître aussi. C'est la 7e célébrité la plus suivie dans le monde, donc elle est suivie partout. Et donc c'était très important pour nous de la prendre au sérieux. Et ce que nous disait d'ailleurs Meredith Jones, qui est une sociologue qui a analysé Kim Kardashian, elle disait tous ceux qui essayent ou toutes celles qui essayent de prendre au sérieux Kim Kardashian, en fait, se font face au même cyberharcèlement qu'elle. Et c'est réel. Par exemple, nous, quand on a fait le documentaire, on a reçu plein de messages de « mais est-ce que c'est sérieux de faire un documentaire sur Kim Kardashian? Pourquoi vous faites un documentaire sur elle ?» Mais la question, c'est qu'elle est, si elle est célèbre, c'est qu'elle s'analyse aussi. Donc nous, on l'a choisi de la prendre sous l'angle du personnage social total, qui est un concept en sociologie, qui dit que si on s'intéresse à Kim Kardashian, en fait, on s'intéresse à toute l'époque. On s'intéresse à la télé-réalité, on s'intéresse à la culture du clash, qui existe même aujourd'hui en politique, la culture de la mise en scène de soi, la culture des réseaux sociaux, et la culture aussi d'une forme de féminité qui va avec un nouveau forme de féminisme aussi, c'est-à-dire le fait de s'affirmer comme un objet sexuel et de dire à la fois je vous montre mon corps mais il m'appartient. Donc c'est ça qui est très intéressant avec Kim Kardashian, c'est qu'elle est le miroir de toute notre époque en réalité.
Mais ça veut dire qu'elle pense sa vie comme un feuilleton de télé-réalité qui ne s'achève jamais, il y a des épisodes tous les jours ou toutes les semaines, tous les mois, il faut des rebondissements.
Ben là elle s'est un petit peu calmée, je pense que c'est lié à l'âge parce qu'elle a 44 ans aujourd'hui.
Et est-ce qu'elle est moins suivie?
Alors non, elle n'est pas moins suivie, elle a toujours 356 millions, bon elle a perdu des abonnés, mais quand on a 356 millions d'abonnés, est-ce qu'on en perd réellement? Comme je le disais, c'est la 7e personne la plus suivie dans le monde, derrière des footballeurs, derrière des stars de la musique comme Selena Gomez. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, on disait, et d'ailleurs, pour faire le lien avec le braquage, on a entendu dire qu'elle méritait ce braquage parce que finalement, ce n'est pas une célébrité légitime. Et moi, ce que je dis à chaque fois, c'est quel milliardaire l'est légitimement? Ça n'existe pas. Une telle accumulation de richesses de manière légitime, il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre de l'accumulation de richesses.
Elle ne mériterait pas son argent parce que voilà, ses activités ne sont pas nobles, par exemple. Elle n'aurait pas produit d'œuvres d'art, par exemple.
Mais et pas donc, plus qu'un footballeur. Ouais. C'est le système du capitalisme et de la financiarisation qui fait qu'on arrive à des...
On vous dira qu'un footballeur est un artiste qui travaille, l'art de la passe, du jongle, du dribble.
Oui, bien sûr, mais c'est la notion de talent qui est questionnée à Kim Kardashian. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Alors que, est-ce qu'on pourrait pas. J'avais interviewé notamment Elisabeth Wissinger pour le documentaire qui parle de Glamour Labour, qui parle du fait que les femmes sur les réseaux sociaux ont maintenant un travail de mise en scène de soi qui passe par des heures de maquillage, de shopping, etc. C'est vrai que c'est un travail qui est plutôt, vu de manière négative dans la société, mais ça reste en fait pour le reste un travail puisqu'il est rémunéré pour les influenceuses en tout cas.
Une femme qui assume son image, qui l'impose, femme d'affaires, mère de famille également. Est-ce que vous diriez, Nesrine Slaoui, que aujourd'hui Kim Kardashian est une grande figure féministe ?
Ah, c'est toute la question du film. On n'arrive pas à la trancher. Moi, je n'arrive pas forcément à la trancher parce qu'elle incarne aussi un féminisme capitaliste. C'est-à-dire, elle incarne un féministe qui, elle avait dit d'ailleurs dans une interview à Variety, que dans la vie, il suffisait de se bouger un petit peu les fesses pour gagner de l'argent. Et donc, je ne suis pas sûre que dans l'état actuel de nos sociétés, on peut considérer que c'est une forme de féminisme, de considérer que l'argent est le seul moyen d'émancipation des femmes. Donc,
Femmes qui viennent d'Amérique latine travailler aux États-Unis, par exemple, ne l'intéressent guère. Il n'y a pas de prise
pas
de position
du point
de vue-là.
Elle jouit quand même d'un privilège de classe. C'est pour ça qu'on parle d'elle comme un nepo baby, c'est important de le dire. Elle jouit d'un privilège de classe. Il ne faut pas la considérer comme... parce que ça, c'est le mythe américain qui nous vend ces success stories-là comme des femmes venues d'en bas qui s'en sortent par la force du travail, etc. C'est très américain.
C'est pas son cas.
C'est pas vraiment son cas.
Une figure de la télé-réalité qui termine à la Maison Blanche, ça c'est Donald Trump. Et Kim Kardashian.
Moi, j'y crois. Personnellement, je pense que c'est un peu le chemin qu'elle essaye de suivre. Déjà, elle a entrepris des études de droit depuis quelques années maintenant. Elle a eu le baby bar, qui est le premier examen pour devenir avocate aux États-Unis. Elle dit souvent ça en hommage à son père arménien, parce qu'elle a une forme de quête de justice aussi. Elle a toujours été très engagée sur les questions politiques.
Elle s'est rendue en Arménie et elle envoie des messages réguliers de soutien à l'Arménie dans son conflit, notamment avec l'Azerbaïdjan.
Exactement. Puis elle a pris position, comme vous l'avez dit, concernant le système carcéral américain, où elle a dénoncé des formes de peine qu'elle juge injustes ou trop longue, etc. Donc, elle prend quand même des positions politiques. Elle a rencontré Donald Trump déjà dans son ancien mandat à la Maison Blanche. Là, elle a pris un petit peu ses distances avec
la
politique.
Elle avait soutenu quelqu'un pendant la
non,
campagne.
pas frontalement, non. Mais elle s'était rendue en tout cas après l'élection. Et puis son mari, Kanye West, était assez vocal sur le soutien à Donald Trump, même si elle était beaucoup plus discrète. Mais en tout cas, elle sait manier le champ politique, elle sait manier la stratégie politique et je pense qu'à terme, c'est quelque chose dans lequel on peut l'attendre, en tout cas, en rôle de sénatrice ou même d'élu à plus grande échelle, peut-être présidente des États-Unis. Tout est possible. C'est le pays de tous les possibles. Donc, ce sera peut-être la fin de carrière de Kim Kardashian.
En tout cas, ça ne vous surprendrait pas, si j'ai bien compris.
Absolument pas.
Nesrine Slaoui, Kim Kardashian, qui dit à l'instant qu'elle veut dire sa vérité à la cour. Elle est en train d'être entendue. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Kim Kardashian Théorie, votre documentaire, toujours disponible donc sur Arte TV, 13h45. Notre feuilleton. Nous passons toute cette semaine avec un tireur photo, l'homme qui donne chair aux images, c'est Thomas Consagny, tireur noir et blanc, et on le retrouve aujourd'hui dans son atelier parisien avec la grande photographe franco-américaine Jane Evelyn Atwood, connue pour ses livres sur les femmes incarcérées, mais aussi sur les prostituées parisiennes.
There it is.
Okay.
Voilà la photo il va tirer.
Une femme.
C'est Blondine dans le couloir.
Bon alors, on a le négatif, je range ça. On va en chambre noire, Jen ?
Ouais.
Allez, venez. On est entre le psy, parce que le psy, il faut comprendre ce que veut le photographe pour pouvoir, au moment du tirage, maquiller, mettre suffisamment de contraste, toutes ces choses-là. Et ça passe en amont avec le dialogue avec la photographe. Et c'est la confiance qu'il y a entre le photographe et le tireur.
Là, Thomas est en train de préparer le négatif.
C'est la photo de Blondine où elle est dans le couloir de la rue des Lombards. Et elle danse en dessous de l'ampoule nue, qui est la seule lumière dans le couloir. C'est un moment de joie dans un couloir qui est crasseux et qui pue le pisse, et où il y a des mégots par terre. Et les autres femmes prostituées sont sur les escaliers.
C'est incroyable. Donc le premier test, il est vraiment très très noir. On ne voit même pas les deux prostituées, on ne voit pas la voiture. Deuxième test, où on les voit, mais il y a des zones qui sont trop grises. Donc ça, il va falloir que je le maquille, que je les densifie.
Mais Blondine est mieux ici, ouais.
En fin de compte, ce serait la quatrième qui serait bien, avec Blondine légèrement plus claire.
Légèrement. Plus
clair, ouais. Faut pas la rendre trop claire, parce que c'est pas une photo, ouais. Voilà, c'est pas une photo de mode, hein. Ça reste... Il faut, même si c'est un moment de joie, il faut pas la faire trop claire, faut pas que ce soit une peau évanescente. Qu'elle soit vraiment présente. Et dans cette photo, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a Blondine qui chante, qui, voilà, ça a ce petit moment euphorique. Et au fond, qu'est-ce qu'on a ? On a la voiture. Et la voiture représente vraiment l'homme. Et tout le côté joie qu'il y a au premier plan de Jane quand elle a fait cette photo, on n'oublie pas la réalité qui est représentée par cette voiture au fond, donc qui est le client, qui est l'homme. ce qui est intéressant, c'est ce travail qui va être à long terme. Et quand Jen, et pourtant ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, est venue me voir avec le nouveau projet Horses, ben la veille, alors je peux lui dire aujourd'hui, la veille j'avais les miquettes. Et là, je dis enfin à Jen, et quand je démarre une expo ou un projet, je leur dis, je veux pas voir pour l'instant tes photos, parle-moi de tes photos. Je veux entendre tes photos à travers tes mots. Pour moi, c'est très important parce que le lendemain, quand je vais être seul, ils seront sur mon épaule en train de me parler dans l'oreille, j'aurai les négatifs et Jen m'aura expliqué pourquoi elle a photographié ce cheval comme ça, comment ça s'est passé, toutes ces choses-là. Et en fin de compte, je suis une éponge et j'entends tout ce qu'ils me disent pour les remettre le lendemain sur le tirage avec les contrastes, les densités, le maquillage.
Ça marche toujours, l'interaction avec le tireur ? La compréhension du...
Ça ne marche pas toujours, mais si ça ne marche pas, vous ne restez pas avec cette erreur. Et Thomas, au début, il n'était pas très bon. Et il est devenu très, très bon, très, très vite. Et je suis contente qu'il est jeune, parce que je pense que je vais mourir avant lui, et j'espère que c'est comme ça. Parce qu'il a appris, il s'est laissé aller dans les tirages, et il est devenu un très grand tireur. Et maintenant, ça fait 15 ans, peut-être, qu'on est ensemble.
Feuilleton signé Thibaut Cavaillès. La suite demain, nous vous avons parlé il y a 2 semaines. Dans ce feuilleton du concours L'École des Odyssées, lancé par France Inter, nous étions avec une classe qui a participé à ce concours de création de podcast. Eh bien, nous avons le nom depuis ce matin de l'école lauréate, c'est l'école Jacques Prévert à Clisson, en Loire-Atlantique. Félicitations à eux, vous retrouvez le feuilleton consacré à ce concours, signé Sonia Princé sur franceinter.fr.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le mardi 13h49, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de maths.
Et je vous emmène à Bressuire dans les Deux-Sèvres où s'est tenue une demi-finale du 39e championnat international de jeux mathématiques avec des participants qui se multiplient de 16 en 2023 à 59 cette année. Une hausse, Jérôme, petit calcul, de 372%. Alors au total...
C'est bien, vous avez bien calculé.
Exactement, j'ai bossé. Plus de 30 000 individuels et scolaires ont concouru en France. Alors, ce championnat est-il réservé aux boss des maths, demande le Courrier de l'Ouest. Non, pas forcément, répondent des collégiens avant d'ajouter, mais en même temps, qui n'aime pas les maths? Bon, on rappelle que la France est parmi les plus mauvais élèves en Europe en ce qui concerne le niveau des élèves dans cette matière et que les inégalités d'orientation entre les garçons et les filles sont criantes.
Et la Fédération française de jeux mathématiques, dont je découvre avec vous l'existence, veut donc redonner envie de pratiquer cette matière.
Et oui, ses objectifs, développer le goût et les compétences mathématiques par le jeu, mais aussi détecter les jeunes talents. Et ça passe par ce championnat créé en 1987. D'ailleurs, la finale nationale aura lieu ce samedi, Jérôme, dans 8 villes, dont Strasbourg, Marseille ou Toulouse, avant le grand rendez-vous international fin août en Tunisie. Alors cette compétition consiste en la résolution d'énigmes, 5 en 1 heure pour les plus jeunes, 18 en 3 heures pour les plus aguerris, pour vous faire une idée, Jérôme, écoutez bien, en voici une de niveau 4 sur 18 proposée en quart de finale. Elle s'appelle l'aquarium. Dans un aquarium vivent des pieuvres qui ont 8 bras et des étoiles de mer à 5 bras. Combien y a-t-il d'étoiles de mer dans l'aquarium, sachant que le nombre total de bras de tous les animaux est égal à 41.
Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire appel à un ami, à des amis, qui sont les auditeurs de France Inter, qui vont aller sur le site franceinter.fr. Il y a l'énigme, puis il y a la réponse aussi, comme ça vous aurez votre réponse. Je triche un peu, cher Cyril. En tout cas, il y a d'autres façons de s'amuser avec les maths à l'école.
Oui, citons le célèbre kangourou des maths avec plus de 6 millions de participants dans 80 pays. C'est le plus grand concours scolaire du monde. Et puis, il y a le bridge. La Fédération française a formé 10 000 enseignants en vatan. Exemple, à Nogent-sur-Marne, les élèves de CP jouent chaque matin dans le cadre de leur cours de maths. Chaque jeudi matin, pardon, dans le cadre de leur cours de maths. C'est aussi le cas à Yssingeau, en Haute-Loire. Alors, j'ai appelé Géraldine Gadet. Elle est enseignante à Parthenay dans les Deux-Sèvres et vice-présidente de la FFB. Je la cite, comme les maths, le bridge, c'est une résolution de problèmes. C'est la même démarche scientifique. On y développe le calcul mental, le raisonnement, la déduction ou l'utilisation des probabilités. L'enseignante vante aussi la prise d'initiative, l'autonomie, la concentration et la mixité sociale que permet cette activité dans son collège. Un élève sur cinq participe au Club Bridge. Mmh. L'option apparaît dans le bulletin scolaire et ce n'est pas réservé aux bons élèves, précise-t-elle.
Option Bridge, donc au collège, encore une découverte. Vous avez encore plus sportif, Cyril.
Oui, les fléchettes. Le collège Jean Moulin à Paris a mis en place un atelier fléchettes mathématiques qui mêle agilité, concentration et calcul, car aux fléchettes, il faut savoir viser, mais aussi additionner, soustraire, diviser et multiplier rapidement pour gagner. Et la victoire, Jérôme, n'est pas qu'au tableau d'affichage. Pour preuve, ce témoignage recueilli par Le Parisien, c'est celui de Zakhar, un jeune Ukrainien de 11 ans réfugié en France. J'ai dit à mes parents que je faisais des fléchettes, pas pour m'amuser, mais pour progresser. Avec les fléchettes, tu dois calculer, mais tu as l'impression que tu ne calcules pas. Mmh. Voici une formule qui vise, Jérôme, dans le mille.
Exact. Faire des maths sans le savoir.
Deux fois 500.
Sans s'en rendre compte. Exactement. Le roi du jeu de mots, Cyril Petit, dans C'est la France. De C'est la France. Ah, c'est une chanson. C'est le comédien et humoriste, lui aussi, Issa Doumbia, qu'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Vous pouvez le voir sur scène dans son spectacle Monsieur Doumbia. Il sera jeudi à Longnes, vendredi à Boulogne-sur-Mer, samedi à Amiens. Et c'est d'une chanson d'Elton John qu'il a souhaité parler, chanson qui a surgi dans sa vie il y a quelques années.
Mon papa était très malade et j'ai eu un petit garçon à la même époque. Et mon père est parti au Mali et il n'a jamais vu mon fils. Et en fait, au moment où je perds mon père, mon fils était accroché à une chanson dans le dessin animé Tous en scène qui s'appelle I'm Still Standing. Et mon fils l'a chanté vraiment à fond, mais vraiment, il dansait dessus. Et quand on regarde la scène, c'est un petit garçon qui est sur scène et il a envie que son père le voit briller. Et son père est en prison et il traverse toute la ville pour venir le voir faire sa représentation et retourner en prison. Donc du coup, il y a une symbolique entre cette chanson et ce que j'ai vécu, c'est-à-dire la relation entre le père et le fils. Mais là, c'est père, fils et grand-père. Et cette chanson ne fait que de me suivre dans des moments où je ne m'y attends jamais. Et j'ai l'impression que c'est mon père qui est là-haut et qui met play et que j'entends cette chanson.
Vous aviez quel rapport avec votre père ?
C'était mon meilleur ami. You can never know what it's like. Your blood like a winter freezes just like ice. And there's a cold lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Alors cette version, Frédéric, ce n'est pas celle d'Elton John, mais celle de l'acteur britannique Taron Egerton.
Oui, c'est la version qu'on entend dans le dessin animé Tous en scène. Et cette chanson, Issa Doumbia l'a récemment entendue, non pas une, non pas deux, mais trois fois dans la même journée.
Je suis en voiture, j'allais faire mon spectacle, j'allume la radio, j'ai une heure et demie de route, je roule. Et à un moment, je pense à mon père, mais vraiment comme ça. Deux minutes après, cette musique arrive. Je fonds en larmes dans la voiture. Donc du coup, j'arrive à la salle. On me dit, bon, ben là, on a fini l'installation. On va pour aller manger, on va au restaurant. J'explique un peu à mon équipe. Ouais, je suis un peu fébrile et tout. Là, j'ai entendu la chanson de mon papa qui représente un truc pour moi. Vraiment, c'est trop pour moi et il faut que je me ressaisisse avant le spectacle. On est en train de manger. La musique revient. Et là, je dis, non, mais c'est pas possible. Et là, toute mon équipe a l'info avant. Donc, du coup, tout le monde me regarde. Mais tout le monde a un peu les larmes aux yeux. Et je dis, ouais, c'est fou quand même de l'entendre autant dans la journée. Donc, pareil, je craque à table. Et on va pour faire le spectacle et tout. On finit le spectacle. Et on va pas me croire, mais vraiment, je remonte dans ma voiture. Je rentre chez moi. Et elle revient. Et en plus, la chanson dit dans le texte « I'm still tiny, je reste debout ». C'est-à-dire que c'est comme si j'avais des encouragements de mon père d'un autre monde. Comme s'il m'encourageait à rester debout et que bah, ça va le faire. «
c'est la chanson de mon père, alors que c'est pas du tout votre père qui vous l'a fait découvrir.
Non, pas du tout. J'allais dire, oui, c'est pas mon père, c'est la chanson d'Elton John de base. C'est pas mon père qui m'a fait découvrir, mais c'est pile dans cette période où je perds mon papa. Et mon fils est très attaché à cette chanson. Et c'est pas la version d'Elton John, hein, mais celle qui m'émeut le plus, c'est vraiment celle qui est dans Tous en scène, le dessin animé, puisque je vois mon petit garçon mais bondir sur cette chanson, la chanter, et ça me touche.
Et il vous disait ça, vraiment, votre père reste debout, persiste?
Ah, mon père, c'était vraiment quelqu'un qui me disait qu'il fallait aller au bout des choses. À chaque fois, il faut pas lâcher, il faut te donner les moyens de toujours être au taquet et montrer que tu vaux la peine d'être vu.
Et votre petit garçon, vous lui parlez beaucoup de son grand-père qu'il n'a jamais connu?
Il est encore petit, mais c'est marrant parce que lui me parle de mon père alors qu'il ne l'a jamais vu. Mais ça, c'est la magie de la vie.
I'm Still Standing par Taron Egerton. C'était donc, Frédéric, le choix d'Issa Doumbia.
Issa Doumbia, actuellement en tournée avec son spectacle Monsieur Doumbia.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Vous nous parlez des gorilles.
Oui, mais des femelles en particulier, les Queen Kong.
A tout de suite dans La Terre au Carré.